Bienvenue sur le podcast de l'Église. Bonne écoute.
Je vais vous parler d'une histoire vraie qui est racontée dans les quatre évangiles. Du coup, si elle est racontée dans les quatre évangiles, ça la rend quand même très importante parce que on sait qu'il y a quatre évangiles dans le Nouveau Testament et il y a des faits véridiques, de la vérité qui sont arrivées, qui sont parfois racontées que dans un, parfois que dans deux. Mais là, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle est racontée dans les quatre évangiles. Mais avant de vous dévoiler cette histoire, je vais un peu vous présenter pourquoi il y a quatre évangélistes et quatre évangiles. Qui saurait me nommer les quatre évangiles? Matthieu? Oui, vas-y, je... Luc,
Jean,
Marc, parfait. Matthieu,
c'est bien, je vois une image.
Un bon coin. Matthieu, c'est le collecteur d'impôts que Jésus vient appeler et qui était donc un juif, mais qui était de son métier collecteur d'impôts un peu rejeté par les siens. Marc, lui, c'était probablement un enfant au moment où Jésus a vécu. Mais du coup, plus tard, Marc va aller interviewer, entre guillemets, Pierre. Et c'est donc son évangile que, lui, il écrit tout ce que Pierre lui a raconté. Exactement, un journaliste. Et donc, lui est un juif. Ensuite, on a Luc, qui est probablement un docteur. Et donc, lui, c'était un non-juif, plutôt un gentil, comme on appelle. Et enfin, Jean, c'était le disciple que Jésus aimait, comme ça qu'il est décrit dans la parole, et lui aussi était juif. Et en fait, c'est rigolo parce que chacun de ces quatre évangélistes va démarrer l'histoire de Jésus et l'histoire de l'évangile à un autre moment. Matthieu, le collecteur d'impôts, il dit « tout commence avec Abraham ». Avec le père de nos peuples. Voilà. Marc, lui, il dit non, ça, tout commence avec Jean-Baptiste au moment où l'action elle commence, quand il va baptiser Jésus, quand il va annoncer que Jésus va arriver. Et son évangile, c'est un peu une série d'actions qui se passent, tout va très très vite, tout s'enchaîne. Et Luc, lui, dit non, c'est pas comme ça, ça commence pas avec Jean-Baptiste, ça commence pas avec Abraham, ça commence bien avant, avec le premier homme, tout commence avec Adam dans l'histoire de Jésus. Et Jean, il dit, non les gars, ça commence bien avant, ça commence avec Jésus est la parole, Jésus est Dieu, et t'es là, dès le bébé. Il commence moi. Et donc, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que vous allez comprendre après pourquoi dans cette histoire que j'ai choisie, qui est racontée dans les quatre évangiles, pourquoi ça... intéressant et quelque part riche d'avoir quatre évangélistes qui nous racontent les choses. Alors, je voudrais mener une toute petite expérience, si vous le permettez. Et pour ça, j'aurais besoin de quatre volontaires qui n'auront rien besoin de réciter, qui auront juste besoin de dire ce qu'ils voient avec leurs yeux. Donc, est-ce que je peux avoir quatre volontaires? Oui. Un, deux, trois, quatre. Merci. Clayton, est-ce que tu peux te mettre derrière les cartons, s'il te plaît?
Dans la cabane de bois.
Eric, est-ce que tu peux te mettre à côté de Nick Caridi, s'il te plaît? Oui, vers là. Oui. Clara, est-ce que tu peux te mettre juste derrière ta guitare, s'il te plaît? Ah, tu décales un peu ta guitare. Et Christophe, est-ce que je peux te demander de te mettre au bout de mon banc, ici? Ah, merci. Et donc, chacun à votre tour, je vais rapidement vous demander de décrire ce que vous voyez.
Je vois une dame. C'est sur une chaise. Et derrière elle, une table. Et derrière cette table, un cadre.
Moi, je vois 5-4 siens. Et c'est moi avec les fêtes sur ma droite et puis un canapé sur ma gauche.
Laurie.
Moi, je vois un plan travail, une table de chaise, un lustre, une horloge, mon ami Christophe, une guitare. Et sur le coin, je vois quatre et apprécié.
Moi, je vois tout le salon avec plein de gens assis.
Et puis, effectivement, un gros ventilateur, une pile de carton. Et puis, un lit cadre avec une photo.
Merci à tous les quatre. Vous pouvez revenir au Gassa. Qu'est-ce qu'on remarque à travers ce petit truc? Je sais que c'est Christophe qui m'en avait parlé un jour de cette petite expérience. Qu'est-ce que ça montre? Qu'en fait, ben, tous les quatre, ils ont dit la vérité. Et tous les quatre ne voyaient pas forcément la même chose. Et donc, oui, nos quatre évangélistes, ils sont différents. Pardon. Ils ont leur petite différence. Mais pour autant, ce qu'ils disent à chaque fois, c'est la vérité. Voilà, Clara, elle ne pouvait pas voir la plante qui était juste derrière elle, par exemple. Mais les autres auraient pu la voir. Et c'est un peu ça que je voudrais juste souligner avant qu'on aille lire l'histoire dans les quatre évangiles. C'est qu'ils ne vont pas se contredire, mais ils vont dire des petites perspectives, des angles différents de la même histoire. Parce que la Bible ne se contredit pas. Alors, qui aurait une idée de l'histoire que j'ai choisie? C'est ma fin.
La
vie. Non.
Moi, je sais, j'y ai...
Oui, tu m'as relu, alors t'as tout droit. Et d'ailleurs, celui-là, il n'est pas dans les quatre.
Oui, je crois. C'est un événement, quand même.
C'est un événement. C'est quelque chose qui s'est véridiquement passé.
C'est bon sur les vampires.
Non.
Tout peut dire, c'est faux, mais c'est pas sûr.
Non plus. Allez, dernière tentative. Qu'est-ce que tu penses, Patricia? Quoi, je pouvais parler?
Je l'ai mis. Et on ne penserait plus que le monde.
La crucifixion, oui. C'est de la crucifixion que j'aimerais vous parler ce matin. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu, chapitre 27. On va commencer avec le premier évangéliste.
Donc, j'ai l'impression. Je suis désolé, toi, t'es.
Il faut se suicider.
Matthieu, chapitre 27. Et je vais commencer à lire au verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés à un endroit appelé Golgotha, ce lieu qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Quand il le goûtait, il ne voulait pas boire. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit, puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les chefs des prêtres avec les spécialistes de la loi et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Voici les rois d'Israël, qu'ils descendent maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. En effet, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. Donc voici ce que raconte premier évangéliste. Je vous invite à tourner dans le suivant, dans Marc. On va aller Marc chapitre 15.
Oui. Ouais. Alia, à port de soi. Lisa.
Oui. Pas d'accord, Nabi.
Alia, d'accord, but en quoi? Capéolissant.
Est-ce que, Françoise, tu peux nous lire de 21, des 4, 32, s'il te plaît?
Nous obligèrent en passant qui retenait des champs, Simon de Cyrène, à lui perdre avec Sandre et de Rufus, à porter la croix de Jésus. Ils amèneront Jésus au lieu appelé Golgotha, et que s'y fit ce qui n'est plus du crâne. lui donnèrent du vin additionné de lyre, mais il n'en prit pas. Ils le clouèrent sur la croix, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots « le roi des Juifs ». Avec Jésus, ils crucifièrent 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la proie !» De même aussi, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi. Ils se disaient entre eux « dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. Lui, le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix. Alors nous verrons et nous croirons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultèrent aussi. »
Merci.
Très proche.
Très proche. On voit qu'il y a beaucoup de choses similaires. Et puis, il y a parfois des petits détails qui ne sont pas écrits ou qui sont... Mais encore une fois, c'est juste un... C'est tout autant la vérité. Avant qu'on lise la suite, parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses lors de la crucifixion de Jésus, moi, je voudrais mettre l'emphase avec vous ce matin sur l'histoire des 2 brigands qui sont là, crucifiés aussi à côté de Jésus. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait de ces deux-là dans les 2 premiers évangiles? Ils l'insultaient.
Oui. Au dos de gauche et sa droite.
Oui, ils étaient passés un à gauche, l'autre à droite de Jésus.
Ils étaient crucifiés au même temps.
Et crucifiés, oui, exactement. Ok. On va passer à l'évangéliste suivant. On va passer à Luc, chapitre 23.
Oui, Luc, à la table, il y a une télévision.
Alors, Valérie, heureux ceux qui sont capités par elle, dont la vie. Oui, 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 oui.
Ici.
Oh, on peut n'en aurait pas. Il vous retient.
Christophe, est-ce qu'il peut te demander de lire du verset 32 jusqu'au 43, s'il te plaît?
Et verrie en étant pauvre.
On conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être commis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant en sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter des vinaigres en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, écrite en grec, latin et hébreu, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Et l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce pour mériter nos actes, et celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité qu'aujourd'hui tu seras là avec moi dans le paradis. »
Merci Chris. Du coup là, est-ce qu'on a encore les mêmes infos que tout à l'heure par rapport à nos 2 brigands?
Ben d'autres, quoi. Mm-hmm.
Plus de détails.
Pour tous les propos.
Mm-hmm. Oui. Donc là, on dit qu'il y en a un qui l'insulte et que l'autre, par contre, il lui dit... Il parle pas d'abord à Jésus, il parle d'abord à l'autre malfaiteur en lui disant t'as aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation. Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'on mérite et nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Ça pose un peu question quand même, vous ne trouvez pas? Par rapport aux 2 autres évangiles, qu'on a lus tout à l'heure, qui disaient que les 2, ils insultaient. Et du coup, quand, par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, qu'on comprend bien les évangélistes, et puis qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce qu'on doit en comprendre?
Ils étaient plus près, celui qui a avorté.
Il était plus près, en effet. Et puis que ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas d'abord insulté non plus, en fait. On peut avoir un changement de cœur à un moment donné, on peut avoir un changement d'attitude. La parole, encore une fois, elle ne se contredit pas. Et moi, je pense fermement que ce brigand-là, il a d'un coup une révélation de qui était crucifié à côté de lui. Et cette révélation, elle ne peut pas venir de sa propre intelligence ou de sa propre force, parce que ce qu'il faisait lui-même, c'était insulter Jésus. Mais là, d'un coup, le Saint-Esprit lui a révélé qui était à côté de lui et il dit, mais non, en fait, moi, je comprends que je suis pécheur, je comprends que je suis là pour une raison. Et en effet, parfois, on les nomme voleurs, parfois brigands, parfois, il y a d'autres mots qui sont choisis. Donc, ils ont fait des choses mauvaises et, entre guillemets, ils méritent la crucifixion. Et là, il se dit, mais cet homme-là à côté de nous, au milieu de nous, ne le mérite pas. Et après, il s'adresse à Jésus. « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » C'est là qu'on voit que c'est vraiment une révélation. Parce qu'il ne connaissait rien.
Exactement.
Exactement. Quand tu viendras régner, ça veut dire que tu sais qui c'est. Ça veut dire que tu sais que le Messie, il est à venir. Enfin, à cette époque-là, il était encore à venir, mais d'un coup, il réalise qu'il est là. Mais que c'est après pour venir régner sur terre et ensuite régner éternellement. Et donc, quand il lui dit ça, là, on comprend vraiment que ce brigand-là a une révélation. Et la réponse de Jésus, je pense qu'elle peut tous nous émouvoir quand même. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Et le aujourd'hui qui me marque beaucoup. À la fin, pour certains d'entre nous qui allons déjà depuis des années à l'église, il ne lui demande pas de faire une formation biblique, il ne lui demande pas d'aller à l'école du dimanche, il ne lui demande pas d'abord prendre les eaux du baptême, il ne lui demande pas de confesser devant toute une assemblée qu'il croit en Jésus. Et il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Là, ce qu'il a dit, ça suffisait à Jésus pour dire ça. Et je trouve ça très, très fort.
Je suis malade.
Que...
Je suis triste.
Cet homme-là méritait d'être crucifié, avait sûrement mené une mauvaise vie, de mauvais actes, de mauvaises actions. Et malgré tout ça, Jésus, il est prêt à tout pardonner, à tirer un trait sur tout ce passé, et dire, maintenant que tu reconnais qui je suis, moi, ça me suffit. Ça me suffit que tu comprennes que tu es pécheur, que moi, je suis innocent et que je suis le Messie.
On peut imaginer que c'est une puissante révélation qu'il a eue, ce brigand.
Complètement. Pour que les deux autres évangélistes nous disent, il l'insultait. Donc, c'est qu'il a sûrement dit, comme les autres, si t'es le fils de Dieu, on descend de la croix. Et bien, on y reviendra un tout petit peu après. On va lire quel notre dernier évangéliste, le quatrième Jean.
C'est le chapitre 19. Au verset 18.
C'est là qu'ils le crucifièrent avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu.
Je fais une petite pause et puis je continue après au verset 31.
C'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en proie pour le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Et quand ils s'approchèrent de lui,
ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé.
Ésaïe.
Oui, Ésaïe et Zacharie. Et donc là, on apprend encore quelque chose de plus.
Il est mort en premier.
Jésus est mort en premier. Les deux autres brigands n'étaient pas encore morts sur la croix quand Jésus est mort. Et du coup, il y avait cette coutume romaine de, pour accélérer la mort à la crucifixion, de briser les jambes, ce qui empêchait de reprendre son souffle. En fait, tout le poids du corps était du coup tiré vers le bas et les personnes n'avaient plus d'appui pour reprendre du souffle.
En fait, considéré devait appuyer sur la petite planche sur laquelle ils étaient soulevés pour respirer. Il ne pouvait plus faire ça.
Oui. Donc là, il mourait par asphyxie, du coup. Mais bon. Non, mais c'est encore une fois pour que vous puissiez comprendre. Oui, c'est des cruels et horribles. Et voilà ce qu'on a fait subir à Jésus aussi. Mais donc, cet homme-là qui a eu cette dernière conversation avec Jésus, il l'a vu mourir aussi. Il a vu, alors là, on ne l'a pas lu, mais il a vu le ciel s'obscurcir. Il a vu ce tremblement de terre. Il a vu tout ça aussi. Et alors, il avait déjà eu la révélation, mais là, il a eu la confirmation que c'était vraiment le Fils de Dieu qui était crucifié à côté de lui. Et alors là, c'est juste de la spéculation, mais on peut imaginer ce qui lui a traversé l'esprit de se dire, mais du coup, est-ce que je vais vraiment être avec lui au paradis ou pas? Est-ce que ça va suffire? Est-ce que les doutes peuvent s'installer? Et après, on connaît quoi la fin? Alors, physique. Mais c'est vraiment intéressant, je trouve, que cette histoire-là des deux brigands, elle soit prise dans les quatre évangiles et qu'on voit au fur et à mesure qu'on a l'histoire au complet, au final. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on ait les quatre évangiles dans la parole. Il ne faut jamais en négliger un, en se disant « moi, je vais lire que celui-là ou que celui-là ». Non, il faut lire les quatre pour comprendre la totalité de l'histoire. Et du coup, à travers ces quatre évangiles, on comprend le placement qu'ils avaient, un à gauche, un à droite, Jésus au milieu. On comprend qu'il y avait des insultes qui étaient menées envers Jésus de la part des brigands, mais aussi des pharisiens, des hommes de la loi, des romains qui étaient là. On sait pour de vrai que Jésus meurt, en premier. On voit qu'il y a la repentance de l'un, qui a une révélation vraiment du Saint-Esprit, qui dit « Ok, maintenant je comprends qui est à côté de moi, et ça me fait comprendre aussi qui je suis ». Alors que l'autre brigand garde un cœur fermé et dit « toi, si t'es Dieu, on descend de la croix et puis tant que t'y es, sauve-nous aussi. Hein, » voilà. Et en fait, ce détail de la repentance, il est écrit dans l'évangile de Luc. Et donc, Luc, c'est le seul non-juif, comme je vous disais au début, c'est le seul qui est un peu comme nous, quoi.
Un gentil.
Voilà, un gentil. Et je me dis, c'est un petit clin d'œil peut-être aussi pour nous, aujourd'hui encore. Que la repentance, elle est primordiale pour nous qui ne sommes pas juifs. Et alors, du coup, je voudrais un peu, prendre quelques minutes encore pour vous dire que cette histoire, si elle est dans les quatre évangiles, moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'elle contient un message pour tout le monde. Elle contient un message pour celui, encore aujourd'hui, qui rejette Dieu. Elle contient un message pour celui qui se dit « peut-être que maintenant je veux découvrir Dieu. » Et elle contient un message pour nous qui suivons encore Dieu aujourd'hui. Alors si tu rejettes Dieu et que tu te moques de lui encore aujourd'hui, mais que d'un coup tu as un changement de cœur, cette histoire elle te montre que Dieu y pardonne.
Mmh.
Que Dieu il est prêt à tirer un trait sur tout ton passé. Que Dieu il accepte la repentance, que Dieu il regarde dans ton cœur
et que Dieu, il n'a pas besoin d'actes de ta part. Enfin, tu n'as pas besoin de baptême, il a tasse de genêne, de... Il peut faire ça en un instant, te sauver. Ça, c'est ce qu'il est capable de faire, Dieu. Et si aujourd'hui tu rejettes Dieu et que tu te moques encore de lui, tu as encore ce cœur fermé face à lui, bah on va l'entendre un peu dans son discours à travers ces fameuses phrases qu'on entend de temps en temps et qu'on a entendues là. Bah, si t'es Dieu, alors descends de la croix. Bah, si t'es Dieu, bah, reconstruis le temple en 3 jours. Vas-y, fais-le. Et puis, bah, si t'es Dieu, si t'étais vraiment Dieu, il n'y aurait pas ça, il y aurait pas ça. Ça, c'est les phrases qu'on entend de gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne le respectent pas et qui ne le craignent pas. Et du coup, c'est des gens qui seraient capables de dire, comme ce brigand, bah, sauve-toi et puis sauve-nous nous aussi en tant que tu y es. Comme si Dieu nous était redevable. Comme si Dieu nous devait quelque chose.
Dieu, il nous doit rien. Non.
Et au contraire, nous, on lui doit tout. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne ce souffle de vie, c'est lui qui est l'espoir, justement, on va le pouvoir après. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus ne répond pas à ce brigand.
Elle laisse à réfléchir.
Et pour nous aujourd'hui qui aimons Dieu, qui suivons Dieu, même là, moi je vois un message pour nous aussi. Ce message, moi, il me fait comprendre que ben, ce n'est pas mes œuvres qui me sauvent. Il faut bien que je comprenne ça, ce n'est pas mes œuvres qui me sauvent. Cet homme-là, il n'était probablement pas baptisé, il n'avait pas pris, même pas commencé une préparation au baptême, il n'avait pas fait d'école biblique, il n'avait pas démarré un disciple-là, il n'était peut-être même pas allé à l'église ou à la synagogue. Et Clayton m'a montré pendant cette semaine une petite vidéo et je vous l'enverrai sur le WhatsApp d'un pasteur écossais, si je ne dis pas de bêtises, qui parle aussi de cette histoire et qui dit que justement si tu adresses la question d'aller au paradis en commençant la phrase à la première personne du singulier avec « je », tu te trompes. Ben, je vais au paradis parce que je crois. Je vais au paradis parce que j'ai persévéré. Je vais au paradis parce que j'ai la foi. Dis là, tu te trompes. Parce que c'est pas à propos de toi l'histoire d'être sauvé ou pas sauvé. Mais c'est tout à propos de la troisième personne du singulier. C'est à propos de lui. C'est à propos de ce que Jésus a accompli. De ce que Dieu a fait. Et en effet, on le voit, on ne va pas le chercher dans la Bible, mais je vais vous le lire dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Et donc, humblement, je veux juste vous raconter l'évangile, la bonne nouvelle, c'est ce que ce mot-là veut dire. Que Dieu, le Créateur de la terre, est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et le Fils de Dieu, à un moment donné dans l'histoire, s'est fait homme. Il est né comme un bébé, qui a été mis au monde par Marie. Et il a grandi en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et les hommes. Pardon. Il s'est fait baptiser, il a accompli des miracles. Il a demandé à des gens de le suivre. Il a annoncé que le royaume des cieux s'était approché d'eux. Il a été transfiguré sur une montagne. Puis il a été trahi. Il a été fait captif. Il a été fouetté. Il a craché dessus. Il s'est moqué de lui. Il a dû porter sa croix. Il a été crucifié. Et il est mort sur la croix. Il a été enseveli, mis au tombeau. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il est mort en innocent. Pour se sacrifier pour chacun d'entre nous, pour nous sauver tous de nos péchés. Jésus est le seul à avoir vaincu la mort. Et donc c'est pour ça qu'il dit, Jésus, ce sont ses mots, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Et donc si il y a dans notre cœur, ce, ce dessein de l'éternité, parce que Dieu l'a placé en chacun d'entre nous. Et donc, face à l'éternité qui nous attend, ben Jésus déclare qu'il est le chemin. Pas un des chemins, mais le chemin, le seul. Il est la vérité, la seule, pas une parmi tant d'autres. Et il est la vie, la seule, et pas une parmi tant d'autres. Et qu'on ne vient au Père, on ne vivra que en éternité avec Dieu le Père, que en passant par Jésus. Donc voilà pourquoi j'ai pris le temps de vous raconter un peu cette histoire qu'on connaît peut-être, mais pas forcément dans tous ses détails. Et elle me semble importante parce qu'elle nous raconte ce par quoi Jésus a dû passer pour nous sauver, ce qui n'est pas une moindre affaire. Elle nous raconte l'éternité et elle nous raconte la grâce de Dieu et que le choix, comme pour les brigands, est entre nos mains.
Vous venez d'écouter le podcast de l'Église Vie. À bientôt.